bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, là, faut...
ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
Dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonjour, vous êtes bien sûr Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2.
Et donc aujourd'hui, lundi 17 juillet 2017, pas de dossier déjà, à la fin, on a pas de dossier, c'est les vacances, c'est normal.
On est en effectif réduit.
On n'a pas tellement de sujets non plus, à vrai dire.
Il y a de l'écho
dans le studio. Mais à l'international, toujours plein de choses à dire. Donc on commencera par la nouvelle rencontre entre Trump et Macron pour voir les machines de mort défiler à Paris le 14 juillet. On ira ensuite connaître un peu ce que c'est que cette île de Guam. On continuera avec le nouveau serrage de vis d'Erdogan en Turquie. Et on fera un petit point sur le FMI qui félicite Macron. Ensuite, au national... on parlera un petit peu des GMS et des nouveautés qui sont liées donc aux salariés de GMS. On ira ensuite voir le conflit entre Macron et le chef de l'armée française et plus généralement l'armée. Et on finira au national sur les nouvelles formes de sélection à l'université que veut mettre en place le gouvernement Édouard Philippe. Et au local, on fera un retour sur la manif du 14 juillet organisée par le Front Social. On ira ensuite faire un petit point sur le camarade lyonnais qui est en détention à Hambourg. On continuera avec les habitants du 3e qui sont mobilisés autour d'un camp de migrants qui est en train de se mettre en place dans le 3e arrondissement. Et on finira sur Képé qui est le...
nouveau maire de Lyon.
Et donc, on commence avec l'international. Et avec l'international, on commence donc avec... Oui, vas-y, après toi.
Non, avant ça, pour introduire un peu notre rubrique internationale, on va écouter Princesse Nokia, Tomboy.
Ah bah oui, c'est vrai.
That girl is a tomboy. That girl is a tomboy. That girl is a tomboy.
With my little titties and my fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy. My little titties be booking cities all around the world, they be fucking with me. I'm a Calvin Klein model, come and get me, set the resi up, don't be fucking with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang bang, gold hoops and a name chain. 10 boots are like 4 rings, Missy Elliott can't stand the rain, you lame seen the same games. Little titties not so damn pretty, staircase in a crack filly. Little titties in a fat kitty, big pants and some stuffed shoes. Pop a bow, Blue's Clues. With my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly. My little titties, my fat belly, my little titties and my fat belly, my little titties and my fat belly.
Et donc c'était Tomboy de Princesse Nokia qui mérite d'être davantage connu et que je vous invite à écouter. Son album est en téléchargement gratuit et tout à fait légal. Loin de nous l'idée de télécharger illégalement.
Alors à l'international, on commence donc avec les deux pires crapules actuelles à l'échelle internationale qui existent, qui se sont extasiés donc ce 14 juillet à Paris devant des machines de mort qu'ils vendent aux quatre coins du monde pour massacrer des populations civiles, parfois des populations entières. Donc je parle bien évidemment d'Emmanuel Macron et de Donald Trump. Entre autres armes de mort, les missiles tirés sur le Moyen-Orient par les rafales de l'armée de l'air achetées à ce brave Dassault encore en vie, ou des F-22 Raptor de l'US Air Force, ou encore les canons Caesar qui ont pillonné les civils de Mossoul ces dernières semaines, en passant par les chars Leclerc qui, vendus aux Émirats Arabes Unis, tuent tous les jours les dits rebelles houthis au Yémen. Chaque portion du défilé était un hymne à la guerre et à l'impérialisme, en l'occurrence français, pour la promotion la plus totale des interventions et des opérations françaises au Sahel et plus généralement sur le continent africain. Car derrière les citations de Macron du type « En ce 14 juillet, nous célébrons la France, nous célébrons ce qui nous unit, nous célébrons ce goût absolu de l'indépendance qu'on appelle liberté, cette ambition de donner à chacun sa chance qu'on appelle égalité. » Derrière cette égalité, cette liberté, eh bien, ce sont les bombardements des régions riches en hydrocarbures et ce sont le soutien et les soutiens aux pires dictatures, notamment en Afrique. Alors derrière les bombardements des régions riches en hydrocarbures, il y a notamment l'alliance française et américaine au Proche-Orient. Et derrière le soutien aux pires dictatures africaines, il y a notamment la toute récente alliance militaire que l'Élysée construit au Sahel avec les États-Unis en se faisant financer par les États-Unis et notamment par Donald Trump. On en avait parlé il y a quelques émissions. Hein, c'est derrière le renforcement de l'opération Barkhane au Sahel, hein, qui correspond pour rappel à 3000 militaires français répartis au Niger, au Tchad, au Mali, au Burkina Faso et en Mauritanie. Et on parle même pas de la présence française en Afrique depuis ces 30 dernières décennies, hein, 3 dernières décennies et 30 dernières années plutôt. Et bien cette opération Barkhane, elle doit être renforcée par le G5 du Sahel et surtout par l'aide américaine, puisque la France, là, face aux appétits impérialistes de d'autres puissances internationales, eh bien, elle commence à avoir des difficultés à s'en sortir toute seule au Sahel, toujours sous couvert de lutte contre le terrorisme. Et donc, elle a besoin d'une réciprocité impérialiste. Elle aide les États-Unis au Proche-Orient. Les États-Unis doivent l'aider dans ses anciennes colonies pour continuer à s'accaparer l'intégralité des ressources naturelles, des moyens de transport, des télécommunications et exploiter la main-d'œuvre à moindre coût là-bas. Donc, notons qu'à Paris, ce 14 juillet, il y avait 2000 personnes qui ont manifesté contre la célébration de l'union militaire et politique entre la France et les États-Unis, contre Trump et Macron, qui mènent de concert des politiques impérialistes, militaires et antisociales, et que cette manif, elle était organisée par un certain Front Social à Paris.
Oui, et puis par ailleurs, j'ajoute qu'on reviendra sur ce rôle important de l'armée, notamment sur les questions économiques et dans l'impérialisme, tout à l'heure à propos du conflit entre Macron et le général d'état-major De Villiers.
Et dans la catégorie colonisation et États-Unis, on va aller voir du côté du Pacifique, sur l'île de Guam. Alors l'île de Guam, c'est une petite île de 549 km² et 160 000 habitants qui se situe dans l'archipel des îles Mariannes. Alors elle est officiellement rattachée aux États-Unis. On en parle aujourd'hui parce que le débat sur l'autodétermination fait rage sur cette petite île. Alors pour revenir sur l'histoire de l'île, elle a été colonisée par l'Espagne en 1565 avant d'être cédée aux États-Unis en 1898, donc après la guerre hispano-américaine où les États-Unis ont récupéré un certain nombre des colonies espagnoles. Guerre qui par ailleurs a confirmé aussi l'indépendance de Cuba. Durant la Seconde Guerre mondiale, le Japon attaque l'île, donc en 1941. Et l'île sera ensuite récupérée par les États-Unis 3 ans plus tard, donc en 1944. Aujourd'hui, c'est encore une base militaire relativement importante pour les États-Unis, hein, qui semble pas vraiment pressée de s'en séparer. La France y a même une annexe consulaire. Hein. Je ne sais pas si vous saviez, mais juridiquement, l'île est un territoire non incorporé et organisé. En fait, les États-Unis ont 10 456 km² de territoire non incorporé et organisé, qui, en fait, la plupart du temps, leur servent de base militaire. Et donc, les citoyens de Guam ont la citoyenneté américaine, mais avec des droits limités. Donc, notamment, ils n'ont pas le droit de vote. Donc, ce qui limite quand même beaucoup l'exercice de la citoyenneté. Et pour l'ONU, cette île, elle se place sur les territoires, sur les 16 territoires non autonomes dont l'ONU appelle les autorités administratives à terminer le processus de décolonisation. Et pour, parmi ceux-ci, on trouve donc le Sahara occidental qui, pour le coup, lui, selon l'ONU, n'a pas d'autorité administrative propre, mais un certain nombre d'autres petits territoires comme les Malouines ou Gibraltar, qui sont donc administrés toujours, encore aujourd'hui, par le Royaume-Uni, mais aussi la Polynésie française que Ban Ki-moon a appelé en 2008, dont Ban Ki-moon a appelé à terminer le processus de décolonisation il y a déjà une dizaine d'années. Et qui est toujours sur ce registre. Donc, c'est pour rappeler qu'en fait, l'impérialisme, il existe aussi de manière très formelle et juridiquement, les territoires colonisés, ils existent encore. Selon l'ONU, ils sont 16. En réalité, il y en a bien plus, hein, des portions de territoires hybrides et qui subissent la colonisation, hein, je pense à la Palestine, entre autres choses. Et voilà, donc là, on souhaite les citoyens de Guam, donc, qui sont principalement des indigènes chamorros, de pouvoir finir le processus de décolonisation. Il y a un référendum qui devrait être organisé d'ici 2018 et qui devrait permettre au moins aux chamorros de donner leur avis sur cette question-là, quoi.
On peut faire confiance aux États-Unis pour rien lâcher, comme la France pour ses semi-colonies.
Alors, d'autant qu'il y a probablement, enfin je sais pas ce qu'il en est pour Guam, mais un enjeu à garder des points pour d'éventuelles bases militaires dans le Pacifique.
Bah oui, d'autant que là ça a été un enjeu pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin la dernière Grande Guerre mondiale, donc ils savent très bien qu'il faut continuer à maintenir la pression dans ces endroits-là, aussi parce que les relations, que ça soit avec le Japon ou la Chine, elles continuent à quand même être sur le fil, hein, en réalité, en cas de conflit mondial.
Oui, et puis l'installation des bases militaires américaines au Japon fait tellement débat politiquement qu'ils ne sont pas à l'abri d'une fermeture des bases. Bon, c'est un gouvernement vaguement moins dégueulasse qui passe, quoi. Oui, et sans transition aucune et avec une transition bien dégoûtante, on va passer de l'île de Guam à la Turquie. J'imagine que vous avez vu ces derniers jours les images de l'anniversaire du coup d'État à Istanbul, célébré en grande pompe donc par l'AKP et son leader et président omnipotent Erdogan. Donc pour rappel, le coup d'État qui a eu lieu il y a un an, donc le 15 juillet 2016, a été mené donc par une portion de l'armée turque, qui a été un échec franc. Il faut dire qu'il était marqué par son impréparation, alors que l'armée subissait déjà pas mal de purges, et que ce coup d'État a été accéléré alors que d'autres purges allaient venir et étaient donc totalement impréparées. Et ce qui devait arriver arriva. Erdogan non seulement a vaincu le coup d'État avec l'aide de ses partisans, mais en a profité pour consolider très fortement son pouvoir en désignant donc son adversaire, le prédicateur Fethullah Gulen, comme le responsable du coup d'État, en profitant pour désigner à peu près tout ce que la Turquie comptait d'opposants des partis sociodémocrates ou même de la gauche, comme des partisans de Gulen, pour mieux les licencier ou les emprisonner. En effet, on a eu 150 000 licenciements dans la fonction publique en un an en Turquie, ce qui constitue une purge assez considérable, et 50 000 emprisonnements, dont des députés kurdes et de nombreux militants de la gauche syndicale ou politique, ou proches des mouvements autonomes kurdes. Faut savoir qu'Erdogan également en a profité pour asseoir sa posture de chef d'État particulièrement autoritaire. Donc le 15 juillet dernier, lors de la célébration du coup d'État à Istanbul, il s'est fait applaudir par des centaines de milliers de partisans de l'AKP réunis devant lui, se faisant appeler Reis, donc chef en turc, on a vu apparaître, notamment dans les discours des lieutenants d'Erdogan, des récits de propagande improbables à propos du coup d'État de l'an dernier, qualifiés d'épopée du 15 juillet, alors qu'il s'agissait finalement d'un coup d'État plutôt raté, qui a fait certes 250 morts, mais qui était bien loin d'être un événement cataclysmique. Donc devant plusieurs centaines de milliers de ses partisans, Erdogan a déclaré vouloir arracher la tête des traîtres, et cette violence, elle n'est pas seulement verbale, puisqu'il faut savoir notamment que la peine de mort a été remise en place en Turquie, que les emprisonnements arbitraires sont de plus en plus nombreux, et que au Kurdistan, on y reviendra, l'armée turque massacre. Les réactions occidentales donc à cet anniversaire du coup d'État ont été unanimement, notamment dans la presse, scandalisées, se focalisant notamment sur les nombreux licenciements dont on a parlé, ou encore les emprisonnements de militants autour des droits de l'homme. Mais ces réactions ont été fort oublieuses de la situation au Kurdistan, qu'on tient à rappeler ici, puisque le Kurdistan, c'est tout de même 1600 morts depuis juillet 2015, et dont 400 civils selon l'International Crisis Group, donc une ONG indépendante. Les molles condamnations contre le régime d'Erdogan sont impuissantes à faire cesser l'affirmation de plus en plus grande de son pouvoir dictatorial. Et par molles condamnations, j'entends notamment ce qui peut se dire à la tête des États européens, qui, à part freiner vaguement le processus d'intégration de la Turquie à l'Union européenne, ne font finalement pas grand-chose, voire continuent à maintenir des relations économiques et politiques avec le régime de l'AKP. Il faut dire que l'AKP semble encore bénéficier d'un fort soutien dans une bonne partie de la population, et ce d'autant plus que l'opposition a été carrément laminée par les purges. Mais les délires autocratiques d'Erdogan masquent mal les difficultés économiques de la Turquie. Il faut savoir que la livre turque a connu plusieurs dévaluations, que le chômage augmente après une contraction du PIB de 2% en 2016, donc antérieure au coup d'État. La classe ouvrière turque, finalement, pourrait bien ne pas se laisser nourrir longtemps de récits héroïques ou de conneries nationalistes autour de la fameuse épopée du 15 juillet. Et c'est tout, finalement, le mal qu'on souhaite à Erdogan et le bien qu'on souhaite à la fois à la classe ouvrière turque et au Kurdistan.
Et du coup, toujours à l'international.
Oui, tout à fait. Vague de chaleur, Turquie, je vais dire iceberg droit devant. Et oui, le 12 juillet, un iceberg de 1000 milliards de tonnes s'est détaché de l'Antarctique, de l'Antarctique ouest, donc 5800 km², soit le département de l'Île-de-France. Donc, d'après...
Comment l'Île-de-France est à la dérive dans l'océan? Qu'entends-je?
D'après certains spécialistes gallois et français, cela ne viendrait pas, entre guillemets, du réchauffement climatique. Ah bon? Ouais, et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Ça serait un fait isolé.
J'interdis cette référence.
Pourquoi? Elle est très bien. C'est la montagne. Bref. Ça serait un fait isolé qui n'aurait aucun impact sur le taux de salinité. Alors pourquoi préciser sur ce point? Car il faut savoir que la salinité a un impact sur le Gulf Stream. Et le Gulf Stream est un courant marin ayant un impact sur les saisons, les pluies, etc. Et s'il y a trop d'eau douce dans la mer, cela ralentit donc ce fameux courant. Et provoque des dérèglements climatiques à grande échelle. Donc, on attend de nous. Enfin, est-ce qu'on peut attendre de notre ministre de l'écologie, Nicolas H, qui pourrait nous expliquer ce phénomène qui
Des gels douche au Choya, on peut attendre, je crois.
Voilà, c'est vrai, il est très, très écologique, lui. Ce phénomène qui peut être exceptionnel, mais tout à fait inquiétant. Mais attendez, nous sommes en vacances. Il est en Méditerranée avec son bateau écologique à moteur 15 chevaux, super sans plomb. Et en attendant, cher pingouin, investissez dans la crème solaire.
Alors, on continue avec un sujet vraiment particulièrement important à l'international. Le FMI, vous savez, le Fonds monétaire international, félicite Macron pour ses ordonnances.
Bravo Emmanuel, de la part du FMI.
Lol.
C'est tout. Et donc on continue avec une petite chanson.
On va écouter Brighton Bomb. Est-ce que tu peux nous expliquer cette petite chanson?
Alors, c'est une très jolie, c'est une très jolie bluette du groupe Angelic Upstart, donc un groupe anglais des années 80.
Oh oui.
À l'occasion de l'attentat, enfin de la tentative ratée d'attentat contre Margaret Thatcher par l'IRA, on dira malheureusement ratée.
Vas-y.
Non, c'est bon.
Et on écoute tout de suite.
J'espère que Margaret t'a changé.
Are they at war? Who can justify? Are you so holy? Have you got the right? Who is the judge? And who is your jury? Let them get it by decree. What do you hold in front of them? It's only your democracy. There's a killer on the street, a killer on the trigger. To me, of cowards and countries with the right to take up the fight. Wiped out in a sea of hate as dust falls in the night. Never to learn till disaster strikes. There's a killer on the street, a killer on the trigger. A bomb gone off to kill.
Et c'était Bright and Boom de Angelic Upstart. Et voilà.
Et vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. Et c'est le Canu Info du lundi soir. Et attention, on passe au national.
Oulala, quel lancement incroyable. Et donc, on en avait parlé à plusieurs reprises par ici. Hein, et comme vous nous écoutez assidûment, vous êtes déjà un petit peu au courant. Donc, les salariés de GMS, un sous-traitant de PSA et Renault, sont toujours mobilisés. Donc, pour rappel, GMS construit, c'est une usine qui construit des pièces automobiles pour les deux constructeurs français et qui est menacée de liquidation judiciaire depuis décembre. Et les salariés de GMS s'étaient mobilisés, avaient annoncé notamment des sabotages pour se faire entendre. Ils avaient annoncé qu'ils avaient piégé l'usine. Depuis, Bruno Le Maire avait essayé de désamorcer la crise, notamment demandant aux dirigeants de PSA et Renault, les deux Carlos, d'augmenter leurs commandes hein, pour qu'une reprise soit possible, puisqu'il y a donc un repreneur qui s'appelle GMD et qui est prêt à reprendre la boîte s'il y a des commandes. Parce que là, le problème, c'est que le niveau est beaucoup trop faible pour assurer les 120 emplois, la continuité des 120 emplois. Mais comme les promesses n'engagent que ceux qui y croient, et ben non, en fait, il s'est rien passé. Hein. Personne n'a augmenté les commandes. Ça a permis de désamorcer la crise un petit peu au moment de l'élection, en fait, et de s'assurer un peu de popularité pour le gouvernement. Depuis, les salariés de GMS sont dans l'attente. Ils veulent savoir ce qui leur réserve les constructeurs automobiles que sont PSA et Renault. Et mercredi, le tribunal de Poitiers doit statuer sur l'offre de reprise donc par GMD. Alors le PDG, donc il s'appelle Alain Martineau, il a été choisi par PSA. Comme tous les prédécesseurs qui étaient à la tête de GMS et qui ont mené GMS à cette situation économique. Et ils avaient donc systématiquement été choisis par les constructeurs qui, par contre, ne veulent pas augmenter leur commande. Du coup, aujourd'hui, Alain Martineau devait venir rendre visite aux salariés de l'usine sur le site donc, qui est situé à la Souterraine, dans la Creuse.
Joli port de pêche.
Exactement. Et du coup, bah voilà, il est pas venu finalement. Hein. Bon, il est pourtant hyper motivé pour reprendre la boîte. Mais il a annoncé très tôt ce matin, alors que tous les salariés étaient venus sur le site pour sa venue, qu'il venait pas parce que, enfin, il a indiqué que certaines choses dans le dossier du bail ne lui convenaient pas. Notamment l'entretien des bâtiments, parce qu'il voudrait qu'un contrat de sous-traitance ou je sais pas quoi. Bon, en fait, en réalité, la raison pour laquelle il vient pas, c'est qu'il a aucune garantie de pouvoir reprendre l'entreprise, sachant que les commandes sont toujours aussi faibles et qu'elles permettent pas du tout d'assurer la continuité de la boîte. Du coup, il a décidé de pas venir alors que demain, alors que mercredi, alors que dans deux jours, il y a le tribunal qui doit statuer. Du coup, ça semble quand même assez mal parti pour les salariés de GMS si leur futur repreneur le sent tellement pas qu'il vient même pas leur rendre visite sur le site. Et du coup, ils ont décidé de continuer la mobilisation. Donc demain, mardi, toute la filière automobile est appelée par la CGT Métallurgie à une heure de grève pour soutenir donc, les salariés de GMS. Et de leur côté, les salariés de GMS ont prévu, a priori, une action de blocage des sites de Renault ou PSA, qui d'ailleurs vit un conflit social en ce moment, comme la semaine dernière, d'ailleurs, ça avait été le cas sur le site de PSA 7 Fonds.
Je ne sais pas si on en avait parlé la semaine dernière, mais le blocage du site de PSA 7 Fonds avait donné lieu à un comportement particulièrement dégueulasse de la part de FO Métallurgie, hein, qu'on peut ici qualifier de syndicat jaune. Je ne sais pas si c'est une info que vous aviez entendue, mais en fait, lors du blocage, FO Métallurgie est soupçonné d'avoir participé au sabotage, notamment du camion des grévistes de GMS, et s'est permis de sortir un communiqué absolument sidérant, parlant de liberté du travail, de soutien à la direction de PSA face aux gauchistes et aux fous furieux en fait de GMS. Donc voilà, on ne remercie pas Force Ouvrière Métallurgie et on leur souhaite tout le mal du monde.
Voilà, et bon, les salariés de GMS ont l'air toujours aussi déterminés, y compris dans leurs moyens d'action. Donc on souhaite que le mouvement de grève soit réellement suivi chez les constructeurs dont ils sont à la solde, en fait, quoi, donc qui qui sont directement les responsables de la situation de ces 120 salariés. Et donc on espère que la solidarité, elle va vraiment se mettre en place et que mercredi, le tribunal de Poitiers rendra un avis favorable pour la reprise, parce que c'est quand même 120 salariés qui risquent de se retrouver sur le carreau.
Dans une région en plus où il n'y a à peu près rien en matière d'industrie maintenant en fait.
Et que derrière, les profits des patrons de ces boîtes-là restent considérables, et que donc ce truc de liquidation judiciaire, c'est une fois de plus pour garder les mêmes profits, et qu'ils ont bien raison de se battre, car derrière, il y a plein de pognon et il y a largement moyen de garder les postes.
Et on passe tout de suite au rapport fort aimable qu'entretient Emmanuel Macron avec l'armée.
Et oui, la guéguerre. Ça coince entre Macron et le chef d'état-major des armées, le bien nommé Pierre de Villiers. Oui, oui, vous l'aurez deviné, il s'agit
de Villiers,
du frère
mais...
de Philippe de Villiers.
Ah, oh, excellent.
Une bien belle famille. Donc le frère de Philippe de Villiers, ce cher Pierre de Villiers, a été nommé par Hollande à la tête de la grande, de la grosse, de la colossale coloniale armée française. Et il est tout colère contre le grand, le gros, l'omniprésent et potent Emmanuel Macron. En effet, l'armée, ça coûte un peu cher. Et en ces temps de cure d'amaigrissement de l'État, le Premier ministre a évoqué les 850 millions d'économies demandées à la Grande Muette, laquelle en est devenue pour le coup sacrément bavarde. Ainsi, De Villiers a, devant la commission de la Défense à l'Assemblée nationale, ouvertement critiqué la nouvelle ligne budgétaire, tandis que dans les couloirs de l'Assemblée s'agitaient les lobbies de l'industrie de l'armement. Ce premier incident a provoqué la colère de Macron qui a, le 13 juillet, réaffirmé la chaîne hiérarchique dans une déclaration prononcée devant des militaires lors de la soirée à la veille du 14 juillet. Ce qui a un petit peu énervé donc Pierre de Villiers, puisqu'il se retrouvait remis en question devant ses troupes en fait. Hein. Et que Macron a notamment déclaré « Je suis votre chef », réaffirmant de la sorte son autorité. Dans les jours qui ont suivi, alors que De Villiers avait semblé réitérer ses critiques à mots couverts dans un article du Figaro, puis dans une adresse aux troupes publiée sur Twitter, Macron et ses lieutenants ont commencé à parler d'émission, et le sort du général doit se décider dans les prochaines heures, si ce n'est déjà fait. On aurait tort de hausser les épaules en se disant qu'il s'agit là d'une escarmouche entre un caporal mal dégrossi et le chef hagnon de l'État bourgeois. Il y a de ça, évidemment. Mais il s'agit aussi d'une crise politique importante, alors que Macron tentait justement d'asseoir en grande partie sa présidence sur l'armée, notamment au travers de multiples visites, par exemple au Mali en mai ou encore à l'hôpital des armées, toujours au mois de mai. Lorsqu'un haut gradé fait de la politique, c'est que la défiance dans l'armée est forte, puisque la supervision civile en France est généralement respectée, moyennant justement le maintien du 7e budget militaire au monde. On le rappelle, 44,3 milliards en 2017. L'armée a, dans la République bourgeoise, une place donc particulièrement importante. Elle gagne en puissance avec l'état d'urgence et l'opération Sentinelle. Dans une interview donnée à Bastamag le 16 mai 2017, l'économiste Claude Serfati évoquait notamment la tendance d'une partie de l'armée, proche de l'extrême droite, à formuler de manière de plus en plus ouverte l'hypothèse d'un état de siège en cas de nouvel attentat. Alors il s'agit bien sûr d'une minorité politisée d'officiers dans l'armée, mais le fait qu'ils se sentent pousser des ailes et qu'ils soient capables d'évoquer leur thèse, notamment autour de l'état de siège, est particulièrement inquiétant. On peut se réjouir de ce que Macron a sur les bras une sacrée crise politique au cœur d'un été durant lequel le gouvernement cherche à faire passer tout et n'importe quoi. Mais les interventions de De Villiers s'inscrivent dans un contexte qui les rend, donc on l'a dit, assez inquiétantes. En tout cas, l'armée reste un bon sujet consensuel pour toutes les momies républicaines et nationalistes que compte notre beau pays aux 1000 fromages et 10 sous-marins nucléaires. Les sous-marins sont nucléaires, pas les fromages. Mélenchon, ce cher Jean-Luc, a ainsi apporté son soutien au général De Villiers, tout en rappelant l'autorité supérieure du politique sur l'armée. L'extrême droite s'est quant à elle trouvé un champion dans le chef d'état-major des armées, et même quelques députés En Marche, notamment des proches de Jean-Yves Le Drian, ancien ministre de la Défense et actuel ministre des Affaires étrangères, ont eux aussi protesté, puisqu'il faut savoir quand même que les députés En Marche ont eu sur le dos pendant toute la semaine les lobbyistes de ADS ou de Dassault qui tentent d'influer donc sur l'Assemblée nationale, pensant qu'elle est la seule à même de rendre à l'armée ses crédits amputés. Pour les uns et les autres, en fait, l'inquiétude elle porte sur la poursuite de différentes opérations, notamment à l'étranger, et c'est le cas aussi pour Mélenchon, hein, dont il faut rappeler qu'il reste un nationaliste. Hein. Il y a tout lieu de dire, pour notre part, qu'il est temps que cessent précisément ces opérations extérieures, par lesquelles la bourgeoisie française assoit sa domination impérialiste, assurant les bénéfices à la fois des groupes de l'armement dont on a parlé, et d'entreprises françaises implantées, par exemple, en Afrique.
Eh bien, on continue donc avec là un point sur l'université, puisque l'université, évidemment, eh bien, sur ce quinquennat-là, va s'en prendre plein la gueule comme les quinquennats précédents, mais probablement avec une très forte accélération. Alors déjà, les coupes budgétaires pour l'université, hein, ce qui est prévu, c'est 331 millions d'euros d'économies, dont 96 euros pour les établissements, 45 euros pour la vie étudiante et le reste pour les programmes de recherche. Ça, c'était les premières annonces. La nouvelle annonce là, d'actualité, c'est la nouvelle réforme des prérequis à l'entrée des universités. Puisqu'il faut mettre fin à ces fameux tirages au sort, hein, selon Édouard Philippe, notre Premier ministre, c'est un scandale absolu et ce serait inégalitaire, puisqu'on le sait aujourd'hui, la fac est absolument égalitaire de l'entrée à l'université jusqu'à la fin de thèse.
Toute l'orientation dans le secondaire est merveilleusement égalitaire également.
Et le primaire, tout à fait de la même manière.
On atteste absolument l'intégralité des études sociologiques sur l'université, sa composition hein, d'ailleurs.
Alors, en quoi consisteraient ces prérequis ? Ils reposeraient, pour mettre fin à ces inégalités, sur les vœux de filière des futurs étudiants, les capacités et les exigences de chaque cursus. Donc, comprenez une forme d'accès sur dossier généralisé à l'intégralité des filières ou en tout cas à les filières dites sous tension, c'est-à-dire celles où il y aurait trop de demandes d'inscription par rapport à la capacité d'accueil des étudiants et surtout par rapport au manque drastique de moyens. Alors, selon la FAGE, vous savez, la FAGE, c'est ce regroupement de corporations étudiantes qui se dit apolitique, mais qui ne l'est absolument pas et qui cautionne l'intégralité des réformes universitaires depuis ces 15 dernières années. Et donc, la situation actuelle des universités qui favorise une sélection outrancière à la fois sociale et par les tirages au sort et pédagogique, hein, il ne faudrait pas que ces prérequis, donc, selon la FAGE, soient coercitifs. Ce serait méchant. Ce serait vraiment méchant d'interdire à des étudiants d'entrer à l'université.
Et la FAGE, ils n'aiment pas les méchants.
Mais il faut dire que la position de l'UNEF n'est pas bien plus dure non plus. Hein. C'est à peu près ça. Hein.
Feu, la glorieuse FSE aurait eu probablement une position bien plus
pertinente. Alors, heureusement qu'on a des présidents d'université comme le président de Paris Descartes, hein, qui lui assume de parler d'une sélection à l'entrée de l'université, une sélection pédagogique, pour ne pas parler de sociale, puisqu'on sait très bien que ceux et celles qui, en partie, hein, réussissent le mieux à l'université et dans le secondaire sont aussi celles et ceux qui ont le plus de possibilités de réussir et de ça viennent justement la sélection sociale. Et il y a la conférence des présidents d'université. Vous savez, c'est le regroupement de l'intégralité des présidents d'université, c'est-à-dire ceux qui sont évidemment à l'opposé de ce qu'on pourrait appeler une université populaire, hein, et qui sont systématiquement du côté du MEDEF et des gouvernements successifs. Et bien, selon la CPU, il faut continuer à dire plutôt que les universités doivent accueillir tout le monde avec n'importe quel bac et dans n'importe quelle filière, c'est de l'angélisme et de l'idéologie. Alors, c'est vrai, c'est de l'idéologie de dire que une université ouverte à tous et notamment aux enfants issus des classes populaires, qu'une université qui n'est pas soumise aux besoins et aux intérêts de l'économie de marché, c'est de l'idéologie, c'est vrai, et c'est bien pour ça que donc ce sont nos ennemis. Alors, ces prérequis, hein, c'est une continuité spécifique des réformes de ces 15 dernières années, c'est-à-dire l'autonomie financière des universités, l'entrée massive du privé dans la conception des enseignements, dans les centres de recherche, dans la gestion des universités, ces diminutions de budget drastiques depuis notamment les deux derniers quinquennats, mais aussi depuis ces 15 dernières années, les suppressions massives de postes, les suppressions massives de filières, notamment dans les sciences humaines et sociales, puisque c'est pas bankable, l'augmentation considérable de la sélection sociale par l'augmentation considérable de la précarité étudiante, et on est bien dans la continuité la plus totale de la soumission de l'enseignement supérieur et de la recherche aux besoins de l'économie de marché. Et ce n'est donc pas une surprise, et ça laisse à penser que ces 5 prochaines années vont à nouveau être absolument terribles pour l'enseignement supérieur et la recherche, et surtout pour certaines filières et les enfants issus des classes populaires.
Oui, et puis sachant que la CPU, quand même, elle est intégralement constituée d'espèces de vieux croutons qui gagnent en moyenne 4 à 5 000 balles par mois. Et qui donc
plus même.
Qui sont donc vachement au fait de ce qu'est la sélection, et voilà, puisqu'ils en sont les premiers bâtisseurs.
C'est même beaucoup plus, puisqu'il y a toutes les primes annuelles dans l'application des réformes, et on peut largement parler de 15 à 20 000 par mois à un moment.
Oui, oui, oui. C'est assez important. Et par ailleurs, je voulais ajouter, ouais, puisqu'on parle beaucoup d'APB en ce moment, qui est la plateforme de sélection entre le lycée et les universités. Donc on parle, le chiffre qui est sorti récemment, c'est 90 000 lycéens qui sortent de terminale et qui n'ont aucun vœu donc à l'université. Hein. On parle de liste de 20 vœux, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun de leurs 20 vœux et qui sont sur liste d'attente. On montre notamment beaucoup de lycéens avec des mentions en disant « Ah, mais ils n'ont rien », etc. Il faut se méfier énormément de ce type de discours, puisqu'il faut savoir que si le tirage au sort est effectivement quelque chose de scandaleux et d'injuste, il est tout aussi scandaleux et injuste de se servir précisément des biais du système actuel, notamment au travers du tirage au sort, pour imposer la sélection dont tu parlais. Et il faut vraiment faire attention aussi au gouvernement qui laisse volontairement la situation se dégrader du côté d'APB, du côté des budgets, en supprimant 300 millions au budget, précisément pour que les discours idéologiques autour de la sélection fournissent une solution clé en main. Ce qu'il faut en fait affirmer, et ce qu'il faut à tout prix faire sortir dans les AG à la rentrée, et je doute pas qu'elles auront lieu, c'est l'idée qu'il faut une place pour tout le monde, et ce, sans aucune sélection d'aucun type, ni tirage au sort, ni sélection sur dossier, pour précisément limiter une sélection sociale qui est déjà bien existante et qui disparaîtra pas tant qu'on ne sera pas débarrassé du capitalisme et de la société divisée en classes.
C'est le moment de bloquer la fac.
Exactement.
Et il y aura aussi, et contre la loi travail, hein, il faut aussi mixer un peu les sujets. Hein,
oui, pas de soucis.
Étudiants, écoute-nous.
Un peu de tout. Ouais, hein. Ouais.
Appelle Radio Canu, on te donnera toutes les entrées qu'il faut bloquer.
Et du coup,
refondre la FSE. Canal historique.
Et du coup, on va écouter Bolshoï.
N'adhère pas à l'UNEF.
Alors, c'est le contraire de l'UNEF, Bolshoï. Bolshoï, c'est un groupe de Oi française, maintenant disloqué, mais qui fait de la très bonne Oi.
Comme la FSE.
Et qui dit en gros, bourgeois, casse-toi, on brûle.
Et donc,
c'est peut-être le seul groupe de Oi audible en France, hein. Profitez-en. Hein.
Violence rouge, colère noire.
Voilà. Et on écoute ça tout de suite. We'll be right back.
alors que vous êtes toujours sur Radio Canu, 102.2, la plus rebelle des radios. On va passer.
Et je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. C'est faux, c'est pas audible en fait, l'œil.
Comment
intégralement.
pas dès ces propos-là.
Mais le mec termine sa chanson par « Oi, oi, Red Skinhead !» Alors qu'il pourrait dire « Oi, oi, refond de la FSE
!»
Ça fait style Rambo, là.
Donc, on passe donc aux informations locales sur Radio Canus en 2.2.
Apparemment, on a recruté un animateur de jazz radio, là. Du coup, oui, la semaine dernière, le 14, vendredi finalement, hein, c'était pas si longtemps, il y a eu une manif du Front Social à Lyon qui a réuni environ 300 personnes pour demander à Macron de immédiatement et sans aucune négociation retirer son projet de loi.
Parce qu'on a l'armée avec nous, alors attention. Hein.
Exactement. Du coup, voilà, c'est un appel donc du Front Social lyonnais qui est notamment qui se réunit notamment. En assemblée les mercredis. Il y aura une nouvelle assemblée le 30 août, si je ne m'abuse. Et une nouvelle mobilisation et journée de grève le 12 septembre. Et voilà, du coup, à partir de là, il faudra être en mesure d'aller dans la rue et y rester. Voilà, du coup, c'était une petite transition vers l'actu locale, parce qu'il y a aussi une manif nationale qui a réuni plus de 2000 personnes.
Tout à fait, et puis on va parler, vu que c'est local, un gros soutien aux camarades lyonnais qui est en détention à Hambourg suite à la mobilisation du G20 le 6 juillet. Un camarade proche du groupe antifasciste Lyon et environ, le GAL, a été interpellé par les groupes anti-émeutes allemandes et sans raison apparente. Donc bien, on pourrait penser et on pense à une arrestation arbitraire. Donc après plus de 48 heures de garde à vue abusive et illégale, il a été incarcéré pour une durée minimum de 2 semaines avant de voir le juge des libertés. Donc il risque de rester en détention jusqu'à son jugement. Donc au camarade, on pense à toi, tu n'es pas tout seul, et puis à cab.
Sachant que ça doit être particulièrement difficile d'être loin de ses proches, de ses potes, en détention et dans un pays où on parle pas dont on ne parle pas forcément la langue. Donc, on continue localement avec une autre mobilisation dans le 3e arrondissement. Il y a une centaine de personnes qui logent sous tente ou à la Belle Étoile depuis plusieurs jours autour donc, de l'esplanade Nelson Mandela. Et l'avenue Félix Faure et rue Jeanne Hachette. En effet, donc ces personnes se sentent traitées comme des chiens. Et oui, ce sont des demandeurs d'asile. Et ces demandeurs d'asile, normalement, hein, constitutionnellement, cette fameuse grande et belle constitution de la 5e République, ils doivent avoir un droit à l'hébergement, droit à la scolarisation, par exemple, etc. Or, depuis un bon paquet d'années, hein, notamment dans les plus grandes villes telles que Lyon, mais également dans tout un tas de moyennes et petites villes, les demandeurs d'asile sont expulsés des centres d'hébergement d'urgence. Il y a des refus de scolarisation. Sachant qu'ils n'ont pas le droit de travailler, qu'ils ont une aide très très faible, hein, une aide financière très très faible, et que donc de plus en plus ils se retrouvent tout simplement à la rue obligés de dormir dehors sous tente là, et en l'occurrence c'est le cas. Et donc il y a une solidarité qui s'est organisée par des habitants du 3e arrondissement, 70 habitants notamment, qui se sont organisés en collectif pour leur apporter de la solidarité concrète. Donc si vous nous entendez, que vous habitez pas loin, que vous avez l'occasion d'y passer, et bah n'hésitez pas à y passer, puisque ces camps-là, on sait aussi très bien ce qui leur arrive, hein, de manière générale, à un moment ou un autre, et bien la municipalité ou la préfecture décide d'envoyer ses flics pour les dégager, parfois violemment et très souvent et même quasiment systématiquement, sans aucune perspective de relogement. Et donc ils ont besoin de solidarité, que ce soit de la bouffe, des vêtements, mais aussi des contacts et de la présence pour en quelque sorte les protéger.
Oui, d'autant que bon, on l'a vu hein, depuis que Macron est arrivé au pouvoir, il semble pas que le traitement réservé aux migrants soit meilleure que sous les quinquennats précédents, voire pire. On parlait la semaine dernière des reconduites complètement illégales à la frontière, à la frontière italienne, des flics qui ramènent des mineurs en train, qui les retiennent dans les gares de manière parfaitement illégale. Tout ça, les préfectures incitent les flics à se comporter comme ça, et l'État en fait les incite à poursuivre dans cette voie-là, parce que il y a une crise migratoire dont ils sont incapables de sortir, et donc ça va vraiment, les politiques elles vont se durcir et les comportements des flics aussi, donc il faut être vigilant de notre côté et que la solidarité elle s'exprime à tous les instants, il me semble. Et du coup, sans transition. Non, je vous remercie pour cette transition. Donc la semaine dernière, on annonçait avec joie la succession ô combien révolutionnaire du tout puissant Colomb à la tête de la métropole.
Le changement.
Voilà, le changement. C'était lundi dernier. Hein. J'avais annoncé donc comment le très docile Kimmelfeld poursuivrait l'œuvre de son maître au sein d'une collectivité hybride qu'est la métropole et qui a été taillée de toutes pièces pour l'immense Gérard Collomb.
Le race.
Eh bien, joie, le changement, c'est toujours pas pour maintenant, puisque aujourd'hui, roulement de tambour, ça y est, Collomb n'est plus maire de Lyon. C'est Georges Képénékian, alors Képé pour les intimes, qui le remplace. Alors rassurez-vous, hein, comme à la métropole, GG gardera un œil sur sa ville, puisqu'il continuera de siéger au conseil municipal. Comme pour Kimmelfeld la semaine dernière, c'est Collomb qui a choisi son successeur, qui d'ailleurs est arrivé un peu, qui est devenu premier adjoint en 2014, à peu près au moment où Kimmelfeld sortait un petit peu, devenait le dauphin de Collomb. Donc c'est un ancien chirurgien urologue, hein, pour ceux qui s'intéressent particulièrement. Il est à peu près aussi docile que Kimmelfeld, quoiqu'un peu moins mou du genou, hein, vraisemblablement. Il est plus soupolé. Lyon Mac dit de lui qu'il est volontiers tactile et adepte du tutoiement. Donc,
Lyon Mac, eux-mêmes très tactile et adepte du tutoiement avec la police, hein, on le rappelle.
Exactement. Donc un mec proche de nous et un peu tripoteur, hein, tout ce dont on rêvait en somme pour la ville de Lyon. Alors quoi qu'il arrive, l'Empire Collomb se tient bien droit sur ses deux jambes. Il est entre de très bonnes mains qui, a priori, ne viendront pas trahir le grand chef Collomb, le bâtisseur de Only Lyon, de la métropole, de tout ce que la gentrification a fait de pire, de l'exclusion des pauvres en marge de la ville.
La vidéosurveillance aussi, Lyon, c'est quand même la capitale de la vidéosurveillance.
Et qui sévit depuis 2001, alors pour les Lyonnais de naissance, dirais-je, j'ai failli dire de souche, mais non. Pour les Lyonnais de naissance, Collomb, c'est un peu comme un grand-père qui refuserait de s'en aller. Et ben apparemment, il refusera toujours. Hein, et moi, je ne doute pas qu'en revenant de son passage à l'intérieur, qui j'espère le fera bien vieillir, parce qu'il a quand même pris pas mal de cheveux blancs depuis qu'il est ministre.
Ah bon, il a encore des cheveux ?
Je ne doute pas, effectivement, il n'y en a plus beaucoup, mais je ne doute pas qu'il reviendra à la tête de la mairie et qu'il continuera de garder un œil très très vigilant sur ce qui se passe à la métropole, parce qu'il se veut quand même être l'avant-garde des nouvelles villes françaises. En fait, Only Lyon, c'est quand même jalousé à peu près par tous les maires des grandes villes du monde. Hein. Il a quand même réussi un beau benchmarking.
Du monde, tu t'emballes peut-être un petit peu, non ?
Bah, si, si, il y a des Japonais qui viennent voir comment ils peuvent développer. Il a fait de la ville une marque, hein, c'est quand même.
En tout cas, si on peut dire une chose, c'est qu'un urologue qui s'occupe des affaires d'un colon, c'est original. Je la préparais depuis 5 minutes.
Oui, je te voyais un petit peu gigotant sur ta chaise et tout à fait impatient. Je me demandais ce que tu voulais nous dire, mais j'aurais dû couper les micros. Donc.
Et donc, on arrive sur la fin de l'émission. On rappelle donc cet été, on a beau partir en vacances, on se prépare bien à fond pour la rentrée, puisqu'il va y avoir un fort mouvement social et dans la fonction publique, hein, puisque les fonctionnaires, beaucoup vont être supprimés, vous allez perdre du salaire. Et donc ça, franchement, moi, je serai vous, en tant que fonctionnaire, je serai colère. Les étudiants, on vous informe que vous avez une assemblée générale de prévue le 11 septembre.
Enfidé, bâtiment 4. Je sais pas s'il a terminé d'être désamianté.
Je suis pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait encore un enfidé au bâtiment 4.
N'hésitez pas à bloquer des cours dès le 11 au matin pour prendre un amphi et faire des assemblées générales.
La FSE refondée sera au grand complet lors de cette assemblée générale.
Enfin, c'est comme ça que ça marche, en tout cas, pour se mobiliser. Voilà. Et puis.
Il y a un blocage de prévu.
Il y a un blocage de prévu dès début septembre. Mais bon, en tout cas, prenez un amphi, faites une AG. C'est comme ça que ça marche. On rappelle, Assemblée Générale, le 30 août à 18h, Assemblée Générale de Ville de Lutte pour continuer le Front Social.
C'est pas du fake.
La résistance face aux ordonnances Macron. En vue non seulement de préparer cette grève du 12 septembre, cette mobilisation du 12 septembre, mais surtout pour préparer l'intégralité du début de la mobilisation à Lyon, soutenir des grévistes s'il y en a, organiser la solidarité, organiser la mobilisation.
Oui, alors on peut rappeler rapidement, puisqu'il nous reste 5 minutes et qu'on est en avance, on peut rappeler rapidement les grandes lignes de la loi travail, si d'aventure certains auditeurs ne sont pas encore convaincus de la nécessité de faire grève le 12 septembre. Donc la nouvelle loi travail, elle s'attaque à l'intégralité de nos conditions de taf, hein, en fait, en passant par à la fois nos représentations du personnel, donc a priori il va y avoir une fusion des différentes organes de représentation du personnel, CHSCT, délégués du personnel.
CE.
Ce comité d'entreprise qui fusionneront et donc nécessairement qui deviendront moins efficaces pour se battre contre le patron. Les licenciements sont facilités. Les CDI n'en seront plus vraiment. Il y aura des CDI de projet qui permettront au patron en fait de vous virer comme ils veulent sans aucune indemnité et
sans aucune prime.
Le plafonnement des indemnités de licenciement de sinistre mémoire est de retour. Hein, on en parle à nouveau.
Alors j'aimerais bien faire un rappel à tous quand même que cette loi de travail commence à sévir aussi dans certaines entreprises et certains patrons commencent à réfléchir.
Et, les la loi de travail 1, oui.
Ouais, les répercussions deviennent terribles par des suppressions de salaires complètement légitimées. Voilà, merci. par cette loi, et il faut surtout pas cautionner, il faut surtout pas abandonner, résister, combattre, et surtout, un patron reste un homme et un salarié n'est jamais isolé. Il faut toujours se représenter et il faut jamais se dire qu'il est beaucoup plus puissant parce qu'il n'est rien.
Bon, et il est plus puissant dans la mesure où c'est lui qui détient les moyens de production, donc du coup
il est puissant parce qu'on est à genoux.
Oui, non, mais voilà, mais du coup effectivement la mobilisation et la grève, hein, c'est-à-dire couper directement l'herbe sous le pied de la rente qu'ont les patrons, c'est le meilleur moyen que de les combattre.
Voilà, et puis on peut ajouter que voilà, à la rentrée, il va falloir avancer clairement le mot d'ordre de refus complet des ordonnances et non pas le pas de deux que sont en train de nous imposer un peu les directions syndicales qui sont en train de dire oui, mais on va négocier, on va discuter. Non, c'est retrait complet de toutes les ordonnances et après on verra, et c'est après qu'il faudra gagner des droits et les arracher surtout à ce gouvernement et au patronat.
Exactement, parce que il faut savoir que chaque liberté est prise dans la rue et ça n'a jamais été prise en Assemblée nationale, et il faut surtout arrêter de penser qu'un président c'est surpuissant. Non, un président c'est un homme, ça reste un homme, et le peuple est son employeur. Ah, ça fout
du monde. Moi,
je suis le peuple et j'ai employé personne. Non, mais bon, c'est pas grave. On passera sur celle-là. Et puis, on vous souhaite du coup, de bonnes vacances, puisqu'il y aura probablement pas de Canu Info d'ici là.
Mais on revient à la rentrée avec une émission sport animée par notre camarade.
Et nous parlerons cyclisme et internationalisme.
Et n'oubliez pas l'AG à la fac
fake news.
Le 11 septembre.
Fake news.
Et voilà, bonnes vacances à tous. Et puis on se retrouve à la rentrée.
Et pour ceux qui n'ont pas de vacances, et bon courage aussi.
Et on vous remet tout de suite les bandes continues, puisque la camarade de l'émission d'après n'est pas là. A priori, elle est déjà
sèche.
À la plage. Elle sèche sur sa serviette.